Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, il y a une expression qui apparaît, mais dont on a de la peine à comprendre la profondeur et comment sa dynamique fonctionne. C'est le mystère de l'iniquité, dont je m'en vais aujourd'hui vous en parler. Il sera en lien avec tout ce qui a été dit depuis quelques semaines. Tout se tient. Mais ce matin, je veux vraiment vous supplier d'écouter ce message avec beaucoup, beaucoup d'attention. Rassemblez-vous et concentrez-vous. La clé de beaucoup de situations de votre vie peut y résider. On peut avoir la clé d'une porte, mais tout dépend de la façon dont on tourne la clé. J'ai une porte, au lieu de tourner sur la droite, il faut tourner sur la gauche pour que ça s'ouvre. Et parfois, dans les choses de Dieu, les choses ne se font pas comme nous le croyons. Il faut l'avoir compris, il faut avoir une intelligence spirituelle. Et ça, nous n'en sommes pas dépourvus. Par les temps qui courent, Dieu le donne à suffisance, pas avec parcimonie. On va lire quelques textes et je m'en vais vous expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons lire ces textes suivants. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les disciples lui répondirent, pas les disciples, les scribes, nous sommes la descendance d'Abraham. Notez bien ça. Descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Deuxième texte. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Suivant, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Troisième, en ces jours-là, comprenez jour de grâce, les temps que nous vivons maintenant. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. On ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Quatrièmement, c'est donc le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous rend libre, vous serez réellement, j'insiste sur le mot réellement. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Vous cherchez à me faire mourir, dit Jésus, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, par la vivante et permanente parole de Dieu. Encore une fois, je vous invite à la prière d'illumination. Père, chacun de nous ce matin, dans son état, a besoin de toi, quel que soit notre niveau dans la foi, quel que soit notre âge. Nous avons conscience que c'est toi seul qui es la source de notre force, de notre joie. Tu es la source de notre paix, de notre patience. Et tu es l'amour qui est appelé à nous inonder et à nous irriguer. En tant que Père, tu connais et comprends notre caractère et notre nature et les infirmités qui en découlent. En tant que lumière, tu connais parfaitement les zones d'ombre qui subsistent encore dans nos âmes de pécheurs pardonnés. Et tu connais parfaitement en tant que sagesse les origines de nos doutes, de nos fragilités. Je te prie, Seigneur, ce matin, d'y apporter ta réponse. Au nom de Jésus, amen. Nous avons tous chacun une histoire, n'est-ce pas? elle ne commence pas le jour où on est venu au monde. Vous allez le comprendre. Notre histoire actuelle est liée à celle de nos parents, de nos grands-parents, de nos ascendants, si nous pouvons remonter jusqu'à Adam et Ève. Là, on est d'accord. Tout dépend de ce que nous mettons dedans. Ce que nous sommes devenus en tant qu'êtres humains est strictement lié à notre passé. Voir notre passé lointain, très lointain. C'est pourquoi le prophète Ésaïe traduit par sa bouche les pensées de Dieu en termes suivants. Mon peuple ne comprend rien. Quel malheur, peuple coupable, chargé d'iniquité, descendance des malfaiteurs, enfants corrompus. Vous avez abandonné le Seigneur, vous avez méprisé le Dieu d'Israël qui est saint. Vous vous êtes détourné de lui. Dans cette phrase, tout est dit. Quand on se détourne de Dieu, on se tourne toujours vers quelque chose. C'est la cause de l'abandon de Dieu et le début de la manifestation d'un autre Dieu qui devient idole dans notre cœur, sur lequel je vais revenir. Mais s'il est question de parler de l'idole, de l'idolâtrie, qu'est-ce que cela signifie? Si l'idolâtrie est un outrage à Dieu, puisque lorsque nous regardons le décalogue, nous verrons bien qu'à Exode chapitre 20, verset 3, Dieu a dit « Tu ne te feras pas un autre Dieu que moi ». L'idolâtrie, c'est le refus de l'homme de reconnaître la souveraineté et la grandeur de Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu, le vrai, le juste. Et il y a aussi une forme d'idolâtrie plus subtile qui consiste à élever une chose ou une personne à la première place dans notre vie, à la place de Dieu. L'amour immodéré de certaines choses est une idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est une idole. L'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur. Et Romains chapitre 1, verset 21, le décrit en termes suivants. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le péché entre en nous par les cinq sens, et pour lequel nous pouvons obtenir pardon de la part de Dieu. Mais sauf que nous n'obtenons pardon de la part de Dieu pour avoir confessé, suivez-moi bien, vous vous rendez compte que le péché revient encore. On refait la même chose. Nous ne devons pas perdre de vue le péché. Le péché répété dans nos vies finit par entrer dans nos sangs, dans notre gène. Lorsque vous commencez à faire le péché, le même péché, le même péché, votre sang en l'enregistre. Il rentre dans votre gène. Je parle du mot génétique ou du mot genèse. Vous me suivez là? Là, je rentre dans le vif du sujet. C'est l'origine de beaucoup de marches chrétiennes clopinantes. On se met au pied de la croix du Seigneur, on dit pardon, et on répète, pardon, on répète, et il y a une sorte de musique qui se fait entre pardon, péché, et on ne gagne pas en largeur, on ne gagne pas en profondeur, on ne gagne pas en consistance. On est libéré, mais on a des liens qui nous empêchent de prendre de la hauteur, de la largeur. Le gène, génétiquement, c'est la transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire du sang. Ce sont ces gènes-là qui caractérisent notre caractère, notre être, notre agissement. Depuis le péché commis, les gènes sont frappés d'infirmité. Et l'infirmité, dans le sens biblique, ce sont les faiblesses humaines. parfois que nous manifestons, en nous disant « Ah, mais ça, c'est notre humanité. » Certes, mais ce sont des faiblesses. Mais malheureusement, ils sont transmissibles. Nous avons vu il y a quelques semaines, dans la perspective du retour glorieux du Seigneur Jésus, le roi des rois, et pour être admis aux noces, il faut être revêtu de fin lin. C'est quoi le fin lin? Il symbolise les œuvres de juste, les œuvres des saints. Car Ecclésiaste le disait, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, dans d'autres versions, que tes vêtements soient des vêtements de fête, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Comment peut-on être revêtu de vêtements blancs? C'est l'image. Être revêtu de vêtements blancs signifie être revêtu de caractère de Christ. Être renouvellement, être renouvelé dans notre esprit, dans notre âme, à l'image de notre Seigneur. Car l'apôtre Paul a dit, au-delà de tout, revêtez-vous de l'amour. L'amour n'est pas un manteau dont nous devons nous revêtir, c'est un sentiment. Donc être vêtu de vêtements blancs, c'est être animé de l'intérieur des sentiments de Jésus le Christ. Et nous savons que nos actions sont issues de nos idées. On dit, sème une idée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu récolteras une destinée. Tout vient d'où? Tout vient d'une semence, d'une idée plantée. Et c'est là où la vie chrétienne doit se jouer. Être pur, c'est être pleinement habité des sentiments du Christ. C'est donc la condition sine qua non qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, d'abord. Et ensuite, vivre en sa présence. Et ensuite, partager le règne de Jésus, son royaume. C'est la partie la plus difficile du programme divin pour l'homme. C'est conserver pur. Car il a été question tout à l'heure dans la liturgie. Cela relève d'un exercice de volonté et de discipline qui s'applique à notre vie dans tous ses détails. Car si Jésus, qui est notre sauveur, je n'en doute pas, il est le sauveur de tout le monde, mais je commencerai à douter qu'il est le Seigneur de tout le monde. Parce qu'être Seigneur, c'est que tous les moindres détails de notre vie doivent être pendus à Jésus-Christ. Et comment nous le faisons? C'est avec l'aide de l'Esprit Saint, qu'encore une fois de plus est vital, salutaire. On ne peut pas en faire l'économie. Par les temps qui courent, Dieu ne donne jamais son esprit avec mesure. Il le donne avec la plénitude, si et seulement si nous sommes disposés à le recevoir. Alors, voilà les questions qui me viennent à l'esprit. Dans quelle mesure le poids de notre histoire influe notre existence présente? Comment en être affranchi de ces impacts négatifs? Et encore mieux, où en est le remède? Pour traiter cette question, combien cruciale, nous l'aborderons de la manière suivante. Suis-je infesté du péché de mes parents, du péché d'Adam, de mes arrière-grands-parents? Ça, c'est une question à laquelle on doit répondre. Et parfois, dans les grandes doctrines bibliques, on n'aborde pas de manière très claire cette question. Nous allons examiner les différentes faces du péché. Parce que le mot péché en français réduit beaucoup le sens du mot. On va consulter l'origine du mot, vous allez voir quelles sont les différentes facettes que représente le mot péché. Comment opère sa dynamique en nous, à travers nous et de manière transgénérationnelle. Et nous allons examiner de manière très pratique le remède que Dieu a apporté et nous allons nous l'appliquer aujourd'hui. Il n'y aura pas une intercession générale. Il y aura une intercession pour nous. Dans la succession des générations, il y a un héritage qui est obligatoire, obligatoirement transmis. C'est la transmission de la nature pécheresse, car la Bible a dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par lui, tous les hommes ont péché, et éligibles pour la mort, mort éternelle. Depuis Adam, toutes les générations qui se sont succédées ont été victimes de son héritage, sa nature pécheresse. On le dit en termes bibliques, la chair, C-H-A-I-R, le pouvoir du péché. Parce qu'il y a le péché, qui sont des actes de faute que je commets de manière isolée, dont on va voir les aspects. Et il y a le péché en tant que nature, qui est une puissance de nature pervertie, irritée d'Adam et Ève, qui nous conduisent à commettre de tels actes. Mais ce mot en français est mal traduit. Le fondement du mot, c'est l'iniquité. Et nous allons le voir tout à l'heure. S'il y a des héritages obligatoirement transmis comme le péché, il y a aussi des héritages que l'on transmet de manière naturelle d'une génération à l'autre, de père en fils. On hérite dans une certaine mesure une disposition, un caractère de maman, le penchant de papa, de grand-père, un caractère plus ou moins approximatif, voire même des ressemblances physiques. On le voit sur le plan physique, mais on oublie que sur le plan spirituel, se transpose la même réalité. Mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas transmettre. La crainte de Dieu, ça ne se transmet pas. La piété, l'obéissance à la parole, l'amour de la vérité, l'amour de Christ, on ne peut pas la transmettre. Cependant, on peut créer un environnement dans lequel où les enfants peuvent copier, peuvent nous imiter, et en nous imitant, ils trouvent la bonne direction. L'adolescent ne sera pas nécessairement pu à cause de ses parents. Comme on a l'habitude de voir dans les Cévennes, on pense qu'on est chrétien du père en fils. Être chrétien, ce n'est pas hérédité. On le devient. On le devient. C'est une grâce de naître dans une famille chrétienne et de découvrir Jésus. D'autres acteurs s'abusent en disant que oui, mon père a été chrétien, il a été pasteur, parce que ton papa a été pasteur, tu es automatiquement sauvé. Non. Tu fais l'objet de l'alliance de Dieu, la grâce. Mais tant que tu n'aurais pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, sinon à quoi ça sert l'amour de Jésus à la croix alors? Ces choses-là doivent faire l'objet de la discipline dans nos maisons. C'est pourquoi nous devons enseigner à nos enfants la manière de faire. Parce que les enfants sont très prudents et ils sont très vigilants. Ils ne voient pas ce que nous leur disons, ils voient ce que nous faisons. La meilleure façon d'enseigner un enfant, c'est d'être modèle, pratique. La véritable nature du péché. Le péché tire son origine de Satan. Et c'est par nos ascendants très lointains, Adam et Ève, que le péché, en tant que force du mal et de la mort, est entré dans le monde et entré chez l'être humain. En dehors de remèdes offerts par Dieu, le péché reste incurable. Si ce n'est pas Dieu qui offre la réponse, le péché ne peut pas être résolu, ne peut pas le soigner. On peut lui donner une forme peut-être plus embellie, mais il reste le péché. L'examen profond en hébreu et en grec du mot péché est très riche. Il se décline de la façon suivante. Le péché en français veut dire la faute. La faute, c'est l'abandon du droit chemin. C'est avoir un faux état d'esprit. Le péché se traduit par égarement, qui est un échec dans la tentative d'atteindre Dieu par nos propres moyens. On peut dire erreur. Quand on dit errement, il vient du mot erreur. Égarement. C'est se tromper de chemin. Le péché veut dire l'offense. L'offense, c'est une intrusion de la volonté humaine dans la volonté de Dieu. Il y a des domaines qui appartiennent à Dieu seul, et l'homme y fait intrusion. Aux yeux de Dieu, c'est une offense. Le péché veut dire aussi licence, qui désigne une situation d'anarchie, d'ordre spirituel, factuel, d'ordre moral parfois. On prend le mal pour le bien. Et même d'ordre comportemental. Parce que ce qu'on a dans la tête, on le traduit dans les faits. Dieu dit de ne pas faire ça, on le fait quand même. On repousse les bornes. Le péché veut dire aussi l'incrédulité, qui est une insulte à la vérité divine. Ne pas croire Dieu, ni lui, ni sa parole. Ne pas croire ce que les envoyés de Dieu disent. Alors quand on fait ça, c'est une porte ouverte à l'idolâtrie. Je veux plus loin à ce niveau-là. Avant le péché commis par Adam et Ève, ils appartenaient à Dieu. Appartenir, dépendre, s'attacher à Dieu. Tout leur être entier dépendait de Dieu. Toutes leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions étaient pendues à Dieu. L'esprit de l'homme ne peut pas être un esprit indépendant. Quand vous le soustrayez d'une dépendance, vous le rattachez sans le vouloir à une autre. Et l'homme, en se détachant de la dépendance de Dieu, automatiquement, de facto, il s'est mis sous la dépendance d'un autre, du diable. L'homme ne connaissait pas la peur, il ne connaissait pas la honte, il ne connaissait rien. Et du moment où il a péché, tous ses sentiments l'ont envahi. Et avant d'être une pensée qui conduit aux mauvaises actions, le péché, c'est avant tout une nature corrompue plantée en l'homme qui porte le nom de l'iniquité. L'être humain devient l'esclave de Satan. Alors nous en arrivons maintenant au fondement. Tout ce que vous voyez, ce sont les fruits du mal, du péché. Mais le vrai péché dont il est question, c'est l'iniquité. C'est le terreau sur lequel les autres péchés poussent. Vous les coupez, mais tant que vous ne déracinez pas, ils repoussent encore à nouveau. Ah oui? C'est pour ça que lorsque nous lisons Jean chapitre 1, versets 1 à 9, il a dit que si nous confessons nos péchés de notre bouche, il est juste et fidèle de nous pardonner, et la phrase ne finit pas là, et de nous purifier de toute iniquité. Si le mot péché et iniquité étaient identiques, pourquoi a-t-on mis péché pardonné et iniquité purifiée? C'est que le pouvoir du mot est différent. Et il faut l'avoir vu. La racine du mot iniquité en hébreu signifie avon ou anomia, qui signifie courber, tordre. L'iniquité œuvre pour tordre le cœur de l'homme. Il déforme la boussole de sa conscience, qui finit par indiquer toujours la mauvaise direction, en le mettant au diapason du mal. L'iniquité, il tient ce langage. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça, c'est l'iniquité, ça. Quand le message de Dieu vient, on commence à raisonner. Et le raisonnement, c'est quoi? C'est toujours tout mode de pensée qui remet en cause la parole de Dieu. L'iniquité attire la pensée dans le domaine des questions sans réponse évidente. Il plante le drapeau de la philosophie ou de la tradition humaine. Il y a des questions directes que la Bible ne traite pas, mais dont la sagesse de Dieu le laisse à la disposition de l'Esprit de nous inspirer. Et l'homme d'iniquité trouvera ce vide pour le combler avec sa manière, avec son intelligence pervertie. Et vous allez voir que dans l'architecture de Dieu, il y a des choses qui sont saines, vérité, mensonge, vérité, mensonge, vérité, mensonge. Et on se retrouve avec un medley de quelque chose de bien et de quelque chose de mal en même temps. Vous voyez le tableau de notre cœur à peu près? Écoutez, je veux vous rassurer, il y aura une solution. Parce que je me suis posé beaucoup de questions sur la vie de l'Église et sur la vie de chacun d'entre nous. L'iniquité peut apporter des réponses séduisantes en renversant la simplicité de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que ceux qui viennent vous annoncer notre Évangile, que autre que ce que je vous le donne, ah oui, parce que les Grecs, ils sont champions de la philosophie. Hein. Ils peuvent te faire des argumentations, mais tu piques une crise ou le vertige. Regarde les menteurs quand ils ont le babou, là. Ainsi, l'iniquité peut se traduire en acte sous forme de faillite, dans l'accomplissement de la volonté révélée de Dieu. Je sais, mais je ne peux pas le faire. Je sais ce qui est mauvais, mais je le fais. Je sais ce qui est bon, mais je suis incapable de le faire. C'est une force qui joue là. Ah oui. L'iniquité se traduit par une absence de droiture ou une disposition intérieure d'inimitié contre Dieu. Il n'aime pas Dieu. Ah oui. Parfois, notre amour pour Dieu est anesthésié. Quand il s'agit des choses de Dieu, non, ça ne tient pas beaucoup. Ah oui, ça c'est l'iniquité qui agit là. Au lieu que le désir de Dieu soit un désir ardent pour me pousser vers Dieu, non, c'est comme un pompier qui éteint cette ardeur. Mais il ouvre mon cœur vers d'autres désirs qui sont des désirs pernicieux. C'est l'iniquité ça. C'est le pouvoir de l'iniquité. C'est la dictature de l'iniquité. D'Adam en nous, on peut affirmer sans risque de se tromper que l'iniquité est transmissible. L'iniquité est comparable à une flèche courbée. Lorsque tu plantes, tu rates le but. C'est pour ça qu'on traduit le péché dans le langage courant, dit que c'est manquer le but. Mais ce n'est pas simplement manquer le but, c'est parce que l'arc il est déjà courbé. L'être humain est déjà courbé. Tout ce qu'il fait, même de bonne intention, il manque toujours le but. C'est une puissance qui nous assujettit et qui nous gouverne si on ne le traite pas convenablement. Et il en est question aujourd'hui. On va le traiter. On va mettre le doigt dessus. Il imprègne tout notre être et nous pollue le sang qui irrigue nos veines. Il porte le gène du mensonge diabolique. Hôte invisible en nous, l'iniquité porte et supporte les fausses vérités, les demi-vérités. Et il élève le mensonge au rang de la vérité. Et il s'en nourrit. Elle est porteuse de mort à double titre, mort physique, mort spirituelle, mais dans la vie de tous les jours, nous commençons à mourir par petit feu. Parce que la mort, c'est l'épuisement. La vie, ce n'est pas l'épuisement. Et la vie de Christ, c'est la vie de l'éternité. Tout ce qui vient de Christ ne s'épuise pas. Elle se consolide au fur et à mesure des générations en générations. Dans mon histoire, j'ai connu des familles où, au début, la maman était victime d'un viol, d'abus. Pour n'avoir pas traité ça comme il faut, sa fille non seulement était victime de viol, d'abus, mais d'une grossesse qui est issue de ça. La troisième génération a été victime de viol, d'abus, de grossesse, mais de tuerie parce qu'ils ont tué l'enfant. Vous voyez, c'est une dynamique. Elle se fructifie au fur et des générations. Tant que ça n'a pas été arrêté, il continue à porter des fruits divers et variés. Et la génération qui vient est polluée. Ne dormez pas, ce message est pour vous. Abraham, il avait menti quand il était en Égypte en disant que, tiens, Sarah était sa sœur. Mais ce mensonge a atteint Isaac. Isaac a fait le même même péché. Parce qu'il manquait d'avoir confiance en Dieu, ils avaient peur. Ils doutaient de la volonté du Seigneur. Je peux vous en faire vraiment toute une liste, mais ce n'est pas là mon objet. C'est pour identifier l'origine du problème et trouver une solution. Certaines passions constructives ou destructives, certaines maladies, certains désastres qui semblent sévir dans un certain milieu familial, certaines puissances négatives exerçant leur pression sur notre existence. Dès que tu commences quelque chose, on dirait qu'il y a une ombre noire là, qui vient sur votre vie. C'est la puissance de l'iniquité. Des viols à répétition que connaissent certaines familles, des accidents récurrents, des morts violentes, sont des illustrations de la puissance de l'iniquité destructrice dans notre vie. Nos pères ont mangé, péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Quand vous attendez ça, vous êtes désespérés. Il n'y a pas de solution. Le tableau est trop noir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez un instant. Jésus va apparaître. Cette idée provoque la détresse sur beaucoup de nous. Je le crois. Pourquoi Dieu, qui est amour, pourrait-il permettre aux innocents de mourir pour les coupables? Ce n'est pas possible. Les générations portent-elles une sorte de conséquence génétique? Cependant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. La décision que nous, parents, nous prenons peut influencer la vie de nos enfants. Je dis influencer. Si vous quittez un endroit où il y a, l'environnement est sain et que vous allez dans un endroit où il n'y a que des braqueurs, des voleurs, mais vous exposez vos enfants à ce type d'infection. Donc une décision que nous prenons en tant que parents peut influencer nos enfants. Pas dans le sens du péché en tant que tel, mais les expose. Comme l'inverse aussi est possible. Alors Jésus va apporter une réponse. En ces jours-là, amen, ce jour de grâce, le jour de la nouvelle alliance, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Car chacun portera le péché de ses propres fautes. Ah, ça commence à souffler. Ça commence à apporter de l'oxygène. Je ne peux pas mourir pour les décisions de mes parents. C'est leur décision à eux. Je peux en subir les conséquences de ce qu'ils ont fait, mais en ce qui concerne l'acte, ils doivent se repentir de leurs actes. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut remonter encore à Adam là-bas pour confesser, demander les péchés, machin. Non, non, non. Les péchés peuvent nous influencer. Nous pouvons les porter parce qu'à force de répétition, ils rentrent dans nos gènes. Par exemple, les parents qui ont l'habitude de consulter, Dieu a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination. Il y en a beaucoup maintenant, la divination. Et plein de formes diverses et variées, même des formes scientifiques. Des personnes qui tirent présage de l'avenir. Vous qui aimez beaucoup les horoscopes. Qui ont recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Et ça existe. Qui jettent des sorts. Qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Des gens qui interrogent les morts. La nécromancie. Et en effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur. Quand vous faites ça dans votre vie, vous ouvrez la porte à une gêne d'idolâtrie qui rentre en vous. Et vous allez voir que les enfants ne vont pas manifester un amour particulier des choses de Dieu. Quand vous dites les choses de Dieu, ça les énerve. Vous pensez c'est quoi? C'est la puissance de l'iniquité qui ferme la porte d'accès au contact avec Dieu, mais qui ouvre la porte de l'enfer. Ça mérite d'être confessé. Vous n'allez pas me dire que dans notre lignée, nous sommes tous exempts. Il y en a. Et la Bible dit que ne faites pas tout ça, vous devrez être entièrement à l'Éternel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors le remède est clair. La rédemption signifie la délivrance par le paiement d'un prix. La rédemption annoncée par le prophète signifie que Jésus a déjà payé le prix. Alors quel est le rapport de Jésus par rapport à l'iniquité? La relation de Christ à l'iniquité, il a été brisé pour nos péchés et écrasé pour nos iniquités. L'iniquité doit être écrasée. Et ça suppose que c'est la mort du vieil homme. Nous sommes morts avec Christ, morts au monde, et le monde est mort pour nous. Il n'y a pas de lien. Si vous prenez une téléviseur avec une télécommande, vous ne pouvez qu'avoir une influence sur l'écran que lorsque la télécommande est active. Pour couper l'activité entre la télécommande et la télévision, qui peut être le rapport entre nous et le péché, il faut que ça soit désactivé. Et c'est la croix de Christ qui le désactive. Il écrase. Il le rend inopérant sur notre vie. Ça, c'est le rapport de Jésus au péché. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la guérison va jusqu'à son niveau. Et maintenant, si Jésus l'a fait à notre place, quel est mon lien, moi, mon rapport par rapport à l'iniquité? C'est de le reconnaître. C'est ce que disait David. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché, à cause de mon iniquité qui me tient captif. La Bible a dit que si nous prétendons être sans iniquité, nous nous trompons nous-mêmes. Mais si nous reconnaissons que nous avons l'iniquité en nous et que Dieu est en nous, nous venons à Dieu, Dieu nous pardonne nos péchés et il nous purifie. Purifier, ça signifie extraire. Extraire. Arracher la racine qui ne pousse plus. ou inactivé, le rendre inactif. Alors c'est cet aspect-là que beaucoup n'ont pas confiance. Ils n'ont pas conscience de ça. Ils ont confessé leur péché qu'ils ont commis par acte, et c'est ce que nous faisons tous les dimanches, je l'ai constaté. Mais en profondeur, il faut bien que l'acte d'iniquité soit arraché. Ça suppose qu'il faut l'identifier. Il faut l'identifier et le proposer au Seigneur. Ce faisant, vous coupez l'influence de l'ennemi pour les générations qui viennent et vous libérez ceux d'en haut. Parce que Jésus ne regarde pas simplement les descendances. Quand il fait son opération de guérison, il prend le présent, il intègre le passé, il intègre l'avenir. Donc il remonte, il nettoie. Dans la Bible, il dit que le péché expie. Expier signifie couvrir. C'est ça, couvrir, expier. Si j'ai une tache ici, vous ne le verrez pas parce que c'est couvert par ma chemise. Mais Jésus n'est pas venu pour expier. Ça réduit l'acte qu'il est en train de commettre. Jésus est venu comme un vaccin. Il est allé chercher les gènes de l'iniquité et de le neutraliser comme un vaccin. Et lorsque nous en avons conscience, lorsque les mauvaises choses viennent dans notre esprit, nous l'identifions et nous pouvons le neutraliser. Nous l'avons fait en Genome ou à l'anéagramme lorsque nous faisons les accompagnements des personnes, des familles, à Jude avec Ouaro. Et il montre tout ça. Il y a un schéma qui montre qu'il y a des péchés génération par génération qui reviennent systématiquement. Le diable fait ça pour faire quoi? Pour bousculer les hommes sous son règne. Mais nous, en tant que Jésus, nous allons casser la puissance du péché et faire basculer les gens dans la présence de Dieu. Et ça commence par nous. Ça commence par nous. Moi, j'étais quelqu'un de très colérique. Ça, je vous l'avoue, ce serait une confession pour moi. Mais de la part de ma mère. C'est un héritage mauvais que ma mère m'a laissé, c'est vraiment celle-là. Celui-là. Mais il m'a fallu du temps pour travailler dessus. Lorsque je l'ai identifié, je me suis mis à la fenêtre et j'ai hurlé. Faites-le. Je m'arrête là. Juste deux mots. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Vous qui êtes régénérés. Ah, le mot est là. Régénérés. Parce que l'iniquité est dans les gènes. Jésus a dit, non seulement nous allons nettoyer l'extérieur, mais nous allons le pourchasser jusqu'à dans le sang. Et Jésus, c'est pourquoi l'histoire du salut, c'est l'histoire du sang. Et pourtant, c'est la parole. Pourquoi le mot sang? Parce que la vie de l'âme se trouve dans le... Ah oui! Le sang de Christ est rentré en nous, il pourchasse, il est allé chercher toi, esprit de colère, toi, esprit d'idolâtrie, toi, esprit de divination, toi, esprit d'adultère, toi, esprit d'impureté. Il le neutralise. Et puis lorsque vous allez regarder les choses qui devaient vous appâter, ils n'ont aucune influence sur vous. Vous l'avez pas remarqué? Ceux qui boivent beaucoup là, juste une goutte d'alcool, quand ils voient le vin rouge là, il y a tout son être qui s'éveille. Mais tu vas voir qu'un jour ou l'autre, quand tu vois le vin rouge, ça ne te dit rien. C'est que c'est désactivé. C'est Dieu qui le fait. Nous allons prier. On va prier, je vous invite à la prière. Seigneur Père, après avoir écouté ta voix, nous venons à toi humblement avec nos incertitudes et nos doutes. Parfois, je ne sais pas où j'en suis dans ma marche avec toi. Je m'aperçois que je fais de surplace. Je semble avancer de deux pas, mais je recule de trois. Je pensais que le chemin était à droite, mais du coup, je me retrouve sur la gauche. Je crie à toi et je désespère. Parfois, je m'accoutume à ces situations que tu réprouves. Pardonne. Parfois, je me suis battu, mais sans résultat, et je me suis résigné à vivre ainsi. Seigneur, réveille-moi de cette torpeur de mort. Éveille ma conscience. Nous voudrions être indignés contre notre faiblesse, contre notre manque de consécration. Nous voulons nous secouer pour courir vers toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Ton sang ne s'occupe pas que du présent. Parce que dans ton royaume, tout est qu'en présent. Tu conjugues le futur au présent et tu conjugues le passé au présent. Et ton sang s'occupe de tous les aspects de notre vie, y compris les fruits de nos entrailles. Car à travers nous, Seigneur, nous mettons un terme au règne de l'iniquité. C'est ce clavier que le diable va utiliser pour nous détourner de toi. C'est ce clavier que le diable va utiliser pour remplir nos cœurs des désirs impurs et des addictions, des dépendances qui nous éloignent de ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, en ton nom, investi de l'autorité que j'ai reçue de ta part, je remonte dans l'atmosphère et j'anéantis, je brise, je détruis. Car tu as dit que ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Et je lis ces forces obscures qui pèsent sur la vie de tes enfants. Je libère ton Église dans tous ses aspects. Que le souffle de Jésus vienne. Nous nous attachons à toi, Jésus. Tu as déjà accompli cette œuvre à la croix. Tu nous as arrachés des puissances des ténèbres et tu nous as transportés dans ton royaume. La solution est déjà là, mais je n'ai pas su m'en approprier pour vivre pleinement comme tu me l'as demandé. Mais aujourd'hui, tu as ouvert mes yeux. Je vais dans ton trésor. Je saisis la caisse de cette délivrance et je l'applique à ma vie et à celle de mes enfants. Christ a été brisé. Il a été écrasé pour nos iniquités. Il est venu pour purifier mon être. Tu veux que je vive avec toi, Seigneur ? Mais tu veux développer ta nature à moi. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre ensemble. Tu n'admets pas que le péché prospère en moi, ni l'iniquité prenne le dessus. Car il déforme toute l'iniquité, même la grâce. La grâce que tu nous donnes, l'iniquité est capable de le pervertir. Il va prendre la liberté comme une permission pour faire tout ce que tu refuses. C'est l'iniquité. Garde-nous sous tes bras. Romps les filets de l'oiseleur qui nous ont maintenus captifs jusqu'à ce jour. Et laisse-nous échapper. Laisse échapper nos âmes comme des oiseaux, qu'ils prennent leur liberté, leur souffle. Merci Seigneur. Nous te recommandons nos enfants entre tes mains. Que la nouvelle génération soit préservée de l'action néfaste des puissances de l'iniquité. Jésus, tu représentes le prototype de la nouvelle génération, d'une nouvelle humanité. Et elle commence déjà maintenant, pour nous et nos enfants. Seigneur, je rends gloire à toi, je te bénis. Merci, parce que Jésus ne serait plus sauveur de chacun d'entre nous. Il sera à la fois sauveur et Seigneur, parce que c'est lui qui dirigera notre vie. Seigneur, que ta grâce repose sur ton peuple, que tu aimes tant ce petit troupeau dont tu veux prendre soin. Et pour prendre soin de quelqu'un, il faut aller chercher le mal qui le tue pour l'en libérer et l'imposer ta grâce pour la délivrance des uns et des autres. Recevez la grâce de Dieu avec abondance, que même en dehors de ce cadre de culte, que la main de Dieu soit toujours vous et que sa main pénètre votre cœur et qu'il vous révèle ce qu'il faut confesser et de recevoir de lui la puissance de la vie qui vous délivre. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus notre Seigneur bien-aimé. Amen. Merci pour votre patience. Ce sujet m'a tenu à cœur parce que je me suis mis devant le Seigneur pendant un certain temps, le mois qui est passé, pour rechercher sa volonté sur des sujets précis. Je me suis dit, Seigneur, les cultes que nous faisons ne sont pas que des offices pour venir remplir des offices. Il faut que les gens viennent et qu'ils repartent avec quelque chose de toi. Il y a des choses que j'ai observées qui ne vont pas très bien et qui parfois, même quand tu parles de doctrine, ils n'abordent pas ces questions. Mais si tu ne le dis pas par l'esprit, comment nous pouvons nous en délivrer ? On ne va pas s'enfermer dans un cadre théologique. Il faut s'en sortir par l'esprit. Et donc, ce sujet, c'est Dieu qui nous l'a mis à cœur. Il n'est pas dit que l'œuvre de Christ n'a pas été accomplie. Je n'ai pas dit ça. Jésus a déjà accompli. Mais nous ne savons pas nous en approprier. On avait la clé. Mais au lieu de tourner sur la gauche pour que ça s'ouvre, nous avons tourné sur la droite. Et maintenant, vous pouvez tourner la clé de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse.